Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Et oui, elle est sauvage, cette équipe, et elle nous offre tous les jours sur Europe 1 2 heures de bonne humeur pour apprendre tout en s'amusant en compagnie des journalistes d'Europe 1 venus défendre leurs meilleurs sujets. Oui, c'est le nouveau rendez-vous donc de cette rentrée Mathieu Noël entre 16h et 18h. Au menu de cette prochaine heure, de cette première heure, eh bien, on va retrouver par exemple une enquête sur l'impact de la Coupe du Monde féminine dans le foot. Hein. Coupe du Monde féminine dans le foot avec Jérôme Lacroix. Hein. Pour le sport, il y aura un gros plan sur les misophones avec Bruno Salomon qui ne supporte toujours pas les petits bruits du quotidien, vous savez, les grincements, les raclements, déglutir, mâcher. Retour également sur la coupe mulet, et bon, on va parler coiffure avec Amélie Nothomb, et puis il y aura aussi une interview du premier rappeur français qui a signé au sein d'un label américain. Allez, restez avec nous et bon après-midi à tous.
C'est la main sur le cœur que nous accueillons ni plus ni moins que la chef du service société d'Europe. Harry, je vous sens intimidé, il y a de quoi, le titre claque. Voici Ève Roger, chef du service société donc, mais aussi animatrice de talent, comme on a pu le découvrir cet été sur notre antenne, où elle présentait une émission de témoignage très fluide.
Nous sommes maintenant en ligne avec Idir. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors, vous nous appelez d'Algérie, où vous êtes en vacances. D'où nous appelez-vous? Je viens de le dire.
Ève Roger, mesdames et messieurs. Pour votre première chronique, Ève, en compétition cette année, connaissant un peu les goûts d'Harry Habitant, notre invité, je vous avais incité à opter pour un thème coquin. Trouvant l'angle des nouveaux plans cul, un tantinet trop racoleur, vous avez, pour ainsi dire, couper la poire en deux.
Eh bien non, je cherche juste un ami avec lequel dormir et seulement dormir.
C'est ça dont vous allez nous parler.
Ah, elle a raison, elle a raison, ça c'est pas mal.
Qu'est-ce donc que le plan dodo, sinon un plan cul raté où on dort?
Alors là, pas du tout Mathieu, parce que il me semble qu'un plan cul qui foire, on n'a pas du tout envie de rester avec la personne qui a potentiellement humilié.
C'est vrai. Non,
pour que vous compreniez bien de quoi je parle, on va d'abord commencer par écouter une petite musique.
Dormir, ah, c'est ma playlist. La playlist Love.
Dans une chambre sous les toits.
Ah, c'est sûr, ça te donne envie de dormir. Hein.
Près de toi.
Ah ouais, parce que si tu mets des
chansons. Sans coucher avec toi.
Vous êtes tellement dissipé que vous n'avez pas entendu qu'ils disent coucher près de toi, mais sans coucher avec toi. Donc ça, c'est un phénomène qui touche donc.
Mais j'écoute pas les paroles, hein. Quand on est en plein plan cul, on n'écoute pas vraiment les paroles en fait. Mais
justement, on est en train de dire, c'est pas un plan cul, c'est pas un sex friend, c'est un ami avec lequel on dort de temps en temps, juste pour faire des câlins. Et pour comprendre bien, vous allez entendre Océane, elle a 25 ans et elle fait des plans dodo.
Je sortais d'une relation un petit peu longue, avec une rupture un peu difficile, et je me retrouvais célibataire, ce dont j'ai pas forcément l'habitude. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée un peu dans une espèce de frénésie d'appli de rencontre en fait. Je parlais à plein de garçons en même temps pendant des jours. Et au moment de les rencontrer, en fait, je me défilais, j'avais pas envie d'y aller parce qu'en fait, je savais que ça allait être forcément une dynamique de drague et que si j'allais dormir avec ces garçons, en fait, il allait falloir que je couche avec, en fait, d'une certaine manière. Et en fait, j'avais pas envie, si j'avais juste envie d'un contact intime mais pas sexuel, quoi.
Et ben voilà, on a compris, c'est les célibataires qui n'ont plus envie de coucher forcément parce qu'ils se sont rencontrés sur les sites internet. Donc jusqu'à présent, ils avaient le choix entre tout, c'est-à-dire la soirée, l'apéro, peut-être un peu resto et après un couche, ou rien, c'est-à-dire rester tout seul. Donc ils ont inventé, c'est ça que je trouve extraordinaire, cette troisième voie qui est très imaginative, ce qui est à la fois d'avoir le contact physique, la chaleur,
bien
la tendresse.
Oui, non, c'est intéressant ce que vous dites, mais elle a choisi un plan dodo. Mais le mec, il dort avec. Il doit être à jusqu'à présent, je peux te dire qu'il doit être très énervé. Alors, parce que je ne pense pas qu'il soit d'accord avec ça.
Vous avez raison. Évidemment,
elle décide qu'elle veut. Je veux un plan dodo. Le mec, il dort pas. Il est très énervé.
Mais surtout, le mec se dit c'est un plan dodo qui va déboucher sur autre chose.
Évidemment, ça débouche. Évidemment que ça débouche.
Comme je m'attendais à cette réflexion, j'ai préparé le témoignage d'un garçon. Et ce garçon-là s'appelle Thomas, il a 27 ans, et lui, il a un plan dodo, il dort à peu près une fois par mois, tous les mois, avec une fille qu'il a rencontrée par hasard en chattant dans le train.
En chattant dans le train, c'est-à-dire
Il y a un réseau, et vous inscrivez sur le Wi-Fi du train, et vous pouvez rentrer
en connexion. D'accord. Il dort une fois par mois, lui, c'est réglé.
C'est une fois par mois, vous allez entendre Thomas, vous allez comprendre ce qu'il éprouve.
Oui.
Avec elle, en fait, c'est juste, par exemple, tu fais quoi ce soir? Tiens, vas-y, je viens dormir chez toi. Ok, pas de souci. Dès que je suis libre, elle est libre, je demande un café. Et si vraiment j'ai besoin, j'ai pas envie de dormir seul ce soir, ou j'ai besoin vraiment d'une chaleur humaine, ou ça va, quoi. Moi, ce que j'ai besoin surtout, c'était le côté affectif, le côté chaleur humaine, le côté rassurant de la chose, en fait. Vous savez, quand vous êtes contre une personne, c'est plutôt rassurant. Et le fait de ne pas dormir seul la nuit, c'est le côté où ben, on se lève, on fait un petit déjeuner ensemble, ou au pire, on peut même passer la journée ensemble. Mais c'est juste le côté, vraiment, le côté sexuel qu'il n'y a pas, le côté couple qu'il n'y a pas. Quoi.
D'accord, Paris, c'est juste un gars qui est en galère d'appart.
C'est SDF. C'est SDF. Ouais, je peux dormir chez toi, c'est cool.
Bah oui, c'est juste parce que je n'ai pas dormi.
Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est ce ras-le-bol de la sexualité obligatoire. C'est-à-dire la pression, ce qui raconte tout.
C'est un ras-le-bol qu'un habitant ne ressent pas visiblement.
Non, alors, je vais vous dire la vérité. Quand vous êtes en couple, vous faites des plans dodo sans le savoir, parce que les soirs, vous couchez pas.
J'ai arrêté tout ça.
Et ben, vous faites des plans dodo. Donc, en fait, les gens en couple font des plans dodo normalement. Et ce qui est important.
Mais il n'y a pas une obligation. C'est-à-dire que celui qui est en couple, il est obligé de faire ce plan dodo. Donc lui, là, il a pas le choix, d'accord. Maintenant, celui qui est célibataire, effectivement, je le comprends très bien, parce que moi, ce que j'aime, et ça, je vous rejoins, c'est des moments de tendresse, des moments de chaleur, des moments de douceur. Et alors, oui, effectivement, ce plan dodo est important, mais encore une fois, il n'y a pas cette obligation d'avoir le plan dodo tous les jours, comme dans un couple où on va se retrouver.
C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est pas forcément le pote avec lequel vous sortez. C'est pas non plus un ami du même sexe, parce qu'on a plus 6 ans, on va plus dormir chez une copine. C'est vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut forcément qu'il soit du sexe opposé, c'est ce qu'il vous raconte.
Allons-y, oui, mais alors ça s'est fait flipper là. Je veux dire, oui. Tu descends dans la rue, tu dis tu veux dormir avec moi.
C'est encore plus inquiétant sur plan cul.
Rendez-vous 22h30 en pyjama. Dormons, je
Eve, tout simplement, est-ce que vous avez déjà pratiqué un plan dodo? Est-ce que vous êtes allée aussi loin dans l'investigation?
Eh bien, je vous le dis, c'est parce que j'ai la chance d'être mariée, d'avoir un mari. Et donc, c'est pas pour raconter ma vie.
Mais toi, t'as pas le choix, toi, évidemment. T'es obligé de dormir avec ton mari depuis 45 ans. Et puis merde! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça n'a rien à voir. Tu kifferais un plan dodo, mais changer de plan dodo régulièrement, c'est autre chose. C'est ça la vérité.
Non, ce qui n'est pas faux, c'est que c'est parfois le prélude à une vraie histoire d'amour.
Voilà, mais je suis
sûr. Sauf c'est un prélude soft. C'est-à-dire qu'on commence, on va boire un verre, on peut regarder un film ensemble. On fait un coup.
Ah ben non, mais en fait, c'est juste dire on couche pas ensemble le premier soir.
C'est juste ça. Et qu'est-ce qu'on en pense d'ailleurs des gens qui couchent pas le premier soir?
C'est un autre débat.
Non, mais c'est important. Moi, je voudrais voter sur ça. Eva, alors, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ne couchent pas le premier soir?
Ah, mais moi, si je pouvais, je coucherais tout de suite.
Bon, Eva, ne vous posez la question à l'antenne d'Europe 1.
Oui, oui, c'est juste déconner. Ça part en vrille tout de suite.
Ça part sur la psychanalyse.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Et oui, le nouveau rendez-vous quotidien sur Europe 1 à retrouver également le week-end avec tous ses invités, les journalistes d'Europe 1 et parmi les invités, Bruno Salomon qui a écrit une fiction sur les misophones. Vous savez, ces personnes agacées à l'écoute de certains bruits, une pathologie dont le comédien souffre lui-même. Et il y a de quoi piquer la curiosité justement de Mathieu Noël.
C'est quoi, Bruno Salomon, le top 3 des bruits du quotidien qui, vous, personnellement, vous rendent fou?
Mastication, reniflement, sifflement.
Ce qui est bien, c'est que le mec, il n'y a pas pensé mille fois. Non, mais il n'en peut plus, il est au bout.
Non, mais on est nombreux, hein. C'est hallucinant le nombre de gens qui en souffrent. C'est fou.
Vous êtes combien
en France? Ça dépasse l'entendement.
Vous avez un chiffre à nous donner?
D'après le seul bouquin qui existe là-dessus de Thomas Dozier, il serait 15% aux États-Unis.
Donc 15% de la population,
ah oui, 15%, c'est énorme.
Ouais. Effectivement, c'est
donc
énorme.
En France, à peu près pareil, on va dire.
Mais avec des degrés plus ou moins importants, misophonie.
Alors, on est tous plus ou moins. Mais ouais. Le plus ou moins, ça fait la différence. C'est-à-dire que mes personnages dans le roman, c'est vraiment plus. Quoi.
Vous, sur l'échelle de Richter de la misophonie, vous êtes à 9?
C'est l'échelle de Stéphane Escher sur la misophonie. moi, je suis à 5, je suis dans la moyenne, je suis quand même assez raisonnable.
Vous avez rencontré des pires misophones que vous?
Et j'ai rencontré des gens d'un niveau incroyable. Et même des gens qui sont confiés à moi, ça y est, je suis professeur.
Mais j'imagine.
Comme votre personnage.
Oui, ça peut être terrible pour certaines personnes. Alors moi, j'ai décidé de le tourner dans la comédie parce que ça aurait pu commencer par un meurtre, finalement, ça aurait pu être un drame total. Et puis, je suis resté vraiment sur le fil de la comédie parce que
c'est tant mieux.
Entre les deux, ouais, c'est plus intéressant.
Et je vous propose que nous procédions à un test. Un misophone est-il capable de s'indisposer lui-même? Écoutez cette interview que vous donniez à nos confrères de la RTS et où vous parliez de la misophonie.
Mais c'est rigolo, on est nombreux, hein, j'en connais plusieurs. Et puis du coup, quand tu commences à creuser un petit peu, tu aperçois qu'il y en a pas mal qui subissent ce truc. Quoi. Il y en a pas mal qui... Mais bon, ça se soigne pas, hein, c'est ça le problème.
Ah non, c'est ça le problème, ça se soigne pas.
C'est ce que m'a dit ma mère. Elle dit, mais toi, tu supportes pas et t'arrêtes pas de faire des chats, des soucis, des machins. Alors, c'est ce qui est très bizarre, je me disais, ça vient peut-être d'elle d'ailleurs. Mais oui, on en a tous. Alors, on en parlait avec Philippe Bandel d'ailleurs dans les couloirs, parce que lui, il m'a donné une clé pour ça. C'est-à-dire que je disais, on peut pas, par exemple, notre propre odeur ne nous dérange pas, mais lui m'a donné un autre,
notre tuyau, c'est on ne peut pas se chatouiller soi-même.
C'est vrai, ça ne marche pas. Oui. Ouais, j'ai déjà essayé pour me divertir. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas.
Ça pourrait être sympa d'ailleurs.
On pourrait essayer tous les deux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, Bruno Salomon, de mettre fin à des relations amoureuses à cause de ça? Une femme sublime, vous l'adorez, tout se passe bien, mais malheureusement, c'est pas, elle grince des dents.
Mais je mets la fin dès le début, là. Parce que là, si, non, mais ce que je dis dans le roman, c'est-à-dire, tant que je vous ai pas vu manger, je ne sais pas qui j'ai affaire.
On ne sait pas si on peut être amis avant d'avoir déjeuné ensemble.
Moi, j'ai des amis que j'aime plus que tout, évidemment, mais qui... voilà. Enfin, c'est...
Vous leur dites, on se voit, mais pas pour le déj.
Voilà. Non, mais si on se voit à des moments précis.
Sans nourriture.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Oui, la suite jusqu'à 18h. Donc on fait le plein de bonne humeur avec Mathieu Noël et on va rester avec le comédien Bruno Salomon.
Bruno vient nous présenter son roman Les Misophones, du nom de ces personnes qui ne supportent pas les petits bruits du quotidien. On continue donc tout en douceur avec un petit quiz. Non, le misophone Bruno Salomon, non. Voilà, tout doux la musique du quiz. À l'occasion de votre roman Les Misophones, c'est un questionnaire évidemment sur le son, les bruits, le volume qui vous attend. Chaque réponse vaut un point. Vous jouez évidemment contre Eva Rock. Une question d'abord pour Bruno. C'est un vrai faux. Le serpent à sonnette fait beaucoup de bruit grâce à sa queue. Mais il ne le sait pas car il est sourd. Vrai ou faux?
Moi je dis vrai.
Bruno Salomon est un champion d'air. Oui, il fait du bruit le serpent à sonnette grâce aux grosses écailles de sa queue. Écoutez.
Pas mal, on dirait un café.
Oui, ça a été enregistré à la Selecta, effectivement dans la rédaction, mais ça sonne à peu près comme un serpent à sonnette. Il ne le sait pas puisqu'il est totalement sourd, ce con de serpent à sonnette. Et Baroc, je connais votre passion pour les chiffres. Le décibel sert à mesurer le niveau sonore. On parle en dB. Vrai ou faux, 26 dB correspond à deux fois plus de bruit que 23 dB.
Ah non, pas du tout.
Pourquoi? Vous devez justifier votre réponse.
Comment ça, je dois justifier ma réponse?
Comment ça?
Pourquoi
vous devez
moi,
justifier
faudrait... bah parce que je le vois
vous
bien.
Vous semblez très sûr de votre
mais non,
fait.
Mais parce que je le vois bien sur mon casque. Si je mets 20 dB ou 23 dB ou 26 dB, ça ne fait pas deux fois plus de...
Oui, mais en tout cas, vous n'avez rien compris puisque c'est vrai. Donc vous avez tort.
Le dB... Justifiez votre réponse.
Mais je vais vous l'expliquer. Le dB est une valeur logarithmique, c'est évident. Ajouter 3 dB correspond à multiplier l'intensité sonore par 2. Donc 26 dB, c'est deux fois plus fort que 23 dB. Pas besoin d'avoir fait... Mathsup, Mathspé. Une question.
Moi, je savais. Hein.
Évidemment, Bruno.
C'est exponentiel.
Bruno, j'avais un cadeau, mais je crois que je vais le garder pour moi.
Une question avec trois propositions maintenant. Vous me donnez chacun votre choix et ensuite je vous donne la bonne réponse. Qu'est-ce qui fait le plus de bruit? 1. Un rasoir électrique. 2. Une motoneige qui circule à 10 km/h. Ou 3. Le record du monde du raw le plus fort jamais enregistré.
Le raw.
Eva?
Je vais donner une autre réponse. Je vais dire la motoneige.
Franchement, moi j'aurais dit aussi la motoneige parce que ça fait quand même un sacré
boucan. 10
km/h, excuse-moi.
Mais oui, c'est pour ça. Puis sur la neige.
10 km/h, c'est lent.
Oui, puis sur la neige.
Et bien la bonne réponse va à Bruno. Salomon La 3, Paul 1 en 2009, a fait un RAW à 109 décibels.
Oh non!
109 décibels, c'est joli. Hein, c'est joli, Polo. Un rasoir électrique fait 85 décibels, à une motoneige encore moins, finalement 73 décibels. Finalement, pas très fort. Eva Rock, pour
un
vous.
Un bilan carbone, c'est
un
moins bien.
Un klaxon. Un klaxon, Eva. C'est bruyant.
Oui.
Mais surtout, ça s'écrit toujours avec un K majuscule. Vrai ou faux?
Oui, parce que c'est une marque, peut-être.
Oh, Eva, vous avez marqué un point.
Oui, c'est ça.
Et ça n'arrive pas tous les jours.
Et oui,
on
c'est
le signale,
vrai.
Le klaxon faisait au début des klaxons pour les vélos. C'est une marque. Attendez, refais de nous, parce que les gens peuvent penser que c'est un son enregistré. Mais c'est hallucinant. Le don de cet homme ne cesse de me fasciner. Bruno Salomon. Bruno Salomon, selon la musique que vous faites écouter à des graines de géranium, ce qui vous arrive très souvent,
évidemment.
Car vous aimez géranium.
Je suis très aimé avec
géranium. Vous pouvez lui faire changer de couleur.
Oui.
Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai.
Eh bien non, c'est faux.
Eh bien si, c'est vrai.
Non.
Moi, je l'ai fait. J'ai fait changer de couleur. Alors là,
en lui
chantant des chansons de Joe Dassin.
Non, par contre, si vous faites écouter à certaines plantes des bruits de chenilles qui croquent des feuilles, elles peuvent émettre des molécules chimiques.
Mais il y a des mecs qui font ça comme expérience, en fait. Ils font écouter des bruits
mais
de chenilles.
Ça, je ne sais pas, vous verrez avec Sébastien Bordenave qui trouve ces questions. Une question, trois propositions, vous me donnez votre choix. Ensuite, je donne la bonne réponse. L'acteur Mel Blanc était connu pour faire la voix de Bugs Bunny. Comment faisait-il pour reproduire, en fait, le bruit de la carotte qu'on croque?
C'était Guy Pierrot qui faisait...
Oui, bien en France, mais là, je vous parle aux États-Unis. 1.
Ah, pardon.
Il écrasait des grillons séchés. 2. Il utilisait du gravier dans sa main. Ou 3. Il croquait une carotte.
C'est quoi le premier, pardon?
Il écrasait des grillons séchés.
Des grillons?
Et comme le docteur, je sais pas ce que j'ai, mais ça me gratte, oui.
Je sais pas, moi, je dirais des grillons, ouais.
Ah bah moi je dis qu'il croque une carotte, tout simplement.
Et Varrock, votre bon sens vous honore. Oui, il croquait tout connement une carotte. 2-2 partout. J'aime quand c'est une égalité parfaite entre l'invité et Varrock.
Moi j'ai un petit cadeau pour
Eva, vous avez un cadeau pour Bruno Salomon.
Parce qu'il y a un ingrédient qui ne fait pas normalement trop de bruit et que vous adorez. Et qui ressemble à ça.
C'est
alors ça fait du bruit.
Le...
Si, c'est des nounours au chocolat. En guimauve.
Mais voilà, ça c'est une bonne idée.
C'est pas des nounours, c'est des koalas.
Oui, c'est des koalas.
C'est pas la même chose.
Mais ce bruit-là.
Ah, ça c'est terrible. Quand on est au cinéma ou dans un train, que ça.
Ouais,
je vous vois pas tout de suite. Bruno Salomon, est-ce que votre misophonie, dont on parle depuis tout à l'heure, cette hypersensibilité acoustique, thème de votre roman, n'est pas en fait finalement la clé de votre talent vocal qu'on vient d'entendre? Vous nous l'avez démontré encore une fois. C'est justement parce que vous êtes hypersensible au son que vous arrivez à les recréer, finalement.
Oui, je pense que c'est une passion pour les sons, justement, que j'ai. Je suis fasciné, j'entends des sons depuis tout petit.
Donc ils ne font en aucun cas vous débarrasser de cette misophonie, en fait.
Mais quelque part, non.
Il faut la juguler.
Vive la misophonie.
Vive la misophonie.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Le nouveau rendez-vous Feel Good d'Europe 1 avec Mathieu Noël, que vous retrouvez tous les jours, même le week-end, entre 16h et 18h. Sa prochaine invitée, maintenant, c'est Amélie Nothomb.
Amélie, si je vous dis qu'on va à présent parler du retour de la Coupe Mulet, êtes-vous capable de deviner dans quel pays nous allons partir ?
En Belgique !
C'était vache comme question ! Et oui, une première qui a marqué l'histoire au moment où Cannes déroulait son tapis rouge aux stars de la Croisette, de l'autre côté de la frontière, en Belgique, la petite commune wallonne de Boussu, c'est bien ça, tenait elle aussi son festival, le festival de la Coupe Mulet. On la croyait, mais alors totalement has-been, eh bien pas du tout, elle revient à la mode, la Coupe Mulet tendance, on a du mal à le croire, et pourtant...
Eh oui, c'est le comeback de l'improbable, il revient, il est là, n'ayez pas peur, mais le mulet reprend du poil de la bête.
Oh
la
non.
Série Stranger Things, vous avez vu, tout le monde connaît, Les deux ados, Billy et Steve, eh bien, ils ont la Coupe Mulet. Brad Pitt sur les marches de Cannes.
Non, pas Brad Pitt.
Et si, alors... Attention, coupe mulet
discret.
Un petit mulet discret, mais un mulet quand même. Voilà, à partir d'un moment, c'est un mulet. Taylor Swift, Rihanna, éphémère mulet, mais également coupe mulet, ça c'est sûr.
Pauline, décrivons la coupe mulet pour ceux qui ne sont pas nés comme nous dans les années 80, en tout cas
alors,
ce qui me concerne.
Très simple, court devant, long derrière, un petit peu court sur les côtés également, hein, dans
c'est
quelque
vrai.
Chose de, voilà, de, d'un peu controversé. Hein,
donc, voilà. Controversé capillairement, c'est vrai.
Controversé capillairement, mais un constat, si vous doutez de sa popularité, qu'est-ce qui relie Johnny Hallyday, Francis Cabrel, André Agassi, McCartney, David Beckham,
le talent,
George Michael aussi, et Jeff Tuch. Eh bien oui. Eh bien la réponse, c'est le mulet.
C'est
le
vrai.
Mulet, c'est populaire.
Non mais d'accord, mais le mulet, c'est quand même moche.
Alors voilà, alors tout de suite... Voilà,
à un moment, le débat doit s'arrêter, c'est-à-dire que...
Alors justement, non. On arrive au point critique, l'esthétisme. Alors je dis attention à tous ceux qui veulent enterrer cette coupe un peu rapidement. Certes, une coupe originale. Écoutez, le mulet, c'est un mode de pensée, un style de vie, c'est s'insurger contre les conventions et les attentes sociales. C'est une île de liberté dans un océan de conformisme, selon les mots de l'organisateur du festival, Damien Hubert.
Nous, ce qu'on met comme sens à la Coupe Mulet aujourd'hui, c'est une affirmation de liberté fondamentale. On n'est pas du tout dans la recherche du canon esthétique pour aller faire des prix de beauté, mais on est plutôt sur vraiment une affirmation de soi. Je suis libre et je le montre.
Je suis libre et je le montre, c'est
qu'est-ce
beau.
Qu'est-ce que j'aime
on
les
est,
belges.
On est sur quelque chose. Voilà, de totalement assumer une ode à la joie, la liberté d'être qui on veut. Et c'est aussi la promesse de l'humour en toute bienveillance. Au festival, on décline pas mal de choses avec le mulet et on salue les jeux de mots. Différents stands dans ce festival, Titi et Gros Mulet, les contes des mules et une nuit. On déguste aussi de ci, de là, des mules frites.
Évidemment.
Et voilà, il y a donc un petit côté un peu déglingo et surtout complètement international.
Les Américains qualifient cette coupe en disant « business in the front, party at the back ». Et donc c'est vraiment de revendiquer... qu'on a au moins deux côtés, la rigueur et la Dewan. La Dewan, c'est un mot de chez nous qui évoque un petit peu tout ce qui va au-delà de la bienséance, des codes, des conventions orientées délire.
Voilà, délire, la Dewan, c'est le mulet, c'est Dewan, c'est délire.
C'est
la déglingue, voilà, c'est vraiment cette ode à la joie, hein, c'est vraiment, on peut le dire comme ça. Et à ce moment-là de l'interview, j'espère que vous saluerez mon courage, Mathieu, Eva, Amélie, Jérôme, je suis obligée de poser une question qui fâche. La queue de rat, on est d'accord, ce n'est pas du tout un mulet.
Ah alors, pour nous, la queue de rat, c'est aussi une longueur dans la nuque. Donc, c'est vrai qu'elle est réduite à sa plus simple expression. Je ne sais pas s'il y a encore des adeptes de cette coupe aujourd'hui.
Donc, vous n'êtes pas complètement fermé au queue de rat.
Non, voilà.
Voilà.
Une belle ouverture d'esprit.
Exactement. Une preuve encore, s'il en fallait encore une démonstration de cette ouverture d'esprit du mulet. Voilà, c'est quelqu'un qui va dire à une toute petite queue de rat qui se balade, et ben voilà, on dit bienvenue, entre toi aussi dans cette grande famille mulet.
Et la grande famille mulet, justement, ça remonte à quand cette histoire en
Alors,
fait
c'est aussi là toute la beauté de cette histoire. C'est la coupe de l'Antiquité, exactement.
Mais
ça a fait fureur en Grèce antique, parce qu'évidemment, il y a un côté pratique. Les pharaons aussi, grands fans du mulet, hein, front découvert pour bien voir, nuque longue pour se protéger du soleil ou du froid. Dans les années 80, évidemment, là, c'est l'apogée du mulet, c'est l'âge d'or, grâce à des icônes. Alors, on a cité quelques icônes tout à l'heure, mais à qui vous pensez d'autres comme...
Tony Verrel, l'attaquant de l'Universel Lens.
Je donne un petit indice en chanson.
Ah, MacGyver !
Oui, MacGyver !
Voilà, le seul, unique, celui qui peut fabriquer un hélicoptère avec des trombones, c'est MacGyver. Donc, Amélie Nothomb, vous avez dit dans une interview que j'ai entendue, ce qui est difficile et plus intéressant. Alors voilà, moi je vous invite à venir casser les codes avec
et
audace.
Ben là, pour casser les
votez
codes.
Bien, votez mulet, votez rock'n'roll.
Bravo Pauline Jacquot.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Il a 23 ans, non pas Mathieu Noël. Il est rappeur autodidacte. Il a déjà rempli les salles comme le Zénith de Paris ou encore le Bataclan. Et surtout, c'est le premier Français à signer auprès d'un label américain. Riles Cassimi, c'est le prochain invité de Mathieu Noël. Vous écoutez donc l'équipe est sauvage jusqu'à 18h sur Europe 1. Nouveau rendez-vous.
Wesh Macaï. C'est comme ça que parlent les jeunes. Enfin, les jeunes, il y a 10 ans. Quoi de neuf du côté du rap français ? Alors, vous allez me dire, on avait déjà trouvé mardi, hein, lorsqu'on a exhumé la bande démo d'Eva Rock, MC Pissaladière, comme on l'a surnommé dans le petit milieu de la night. Hein, c'était une bande démo qu'elle avait produite l'année dernière dans des circonstances encore floues.
Yo,
pour rappel.
Le rap, c'est pas du tout ma cam. Je préfère un son qui a plus d'âme.
Voilà, le mot honte n'est pas galvaudé dans ce moment que nous allons vivre. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on a trouvé mieux. Bonjour Riles Cassimi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rappeur, vous avez 23 ans, vous êtes autodidacte. Votre premier album, Welcome to the Jungle, vous ne l'avez pas concocté dans les studios de Los Angeles ou d'Abbey Road avec la supervision de 17 producteurs artistiques, mais dans votre chambre de 9 mètres carrés, près de Rouen, c'est ça ?
Exactement.
Comment vous avez fait ?
En fait, j'ai toujours vécu dans la même maison depuis 23 ans maintenant. Et j'ai eu, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, la chance d'avoir eu des parents pauvres. Je dis une chance parce que ça m'a conditionné à faire avec mon environnement, qui a été la même chambre dans laquelle je vis depuis 23 ans maintenant. Et c'est là que j'ai appris à faire des instrus, à mixer, à masteriser, à enregistrer ma voix et à faire mes clips tout seul dans la chambre.
Alors justement, une question sur le côté autodidacte. Vous avez appris à faire des instrus comment ? En regardant des tutos sur Internet, en regardant d'autres faire sur Internet ou vraiment absolument seul ?
Exactement sur Internet. En fait, j'ai commencé il y a 8 ans maintenant. Et à l'époque, il y avait quelques vidéos sur YouTube, beaucoup de forums d'entraide. Et après, c'est la pratique, quoi. C'est la pratique et on fait des erreurs, on se casse les dents, on se relève et on essaie de s'améliorer.
Au départ, vous vous êtes fait connaître en faisant le pari de poster tous les dimanches un titre sur les réseaux sociaux. Donc déjà, vous êtes très prolifique parce que tous les dimanches, c'est quand même un sacré défi.
C'était très difficile, ouais.
Vous aviez beaucoup de followers à l'époque ?
Non, en fait, justement, vu que j'étais en full indé, c'est-à-dire que j'avais
full indé qui veut dire totalement indépendant.
Totalement indépendant, donc pas d'attaché de presse, vraiment aucune connaissance de l'industrie, de comment ça se passe. J'étais juste seul avec Internet dans ma chambre et j'arrivais pas à percer. Je sortais des sons, je sortais des clips et ça faisait 1000 vues sur YouTube, mais je sortais que... un tous les trois mois. Je me suis dit, maintenant, la consommation de la musique, heureusement ou malheureusement, elle est beaucoup plus effrénée qu'avant. Mmh. Il y a plus un... Avant, on écoutait, je pense, un single, il tournait en radio pendant six mois, un an. Mmh. Maintenant, tout le temps, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Et je me suis dit, le seul moyen de me démarquer par rapport à ces artistes qui sont signés et qui sont mis en avant, alors qu'ils n'ont pas forcément une grosse discographie, c'était de mettre... en avant les moyens que j'ai de produire un son tout seul, mais de le faire une fois par semaine. C'est-à-dire que tous les dimanches...
C'est cette performance-là qui a attiré les
voilà,
gens.
En fait, j'ai sélectionné le dimanche. Pourquoi ? C'est le jour où personne travaille, où tout le monde se repose, et c'était l'angle d'attaque que je pouvais attaquer pour commencer déjà à attaquer, entre guillemets, le marché. Et bah, toutes les semaines pendant un an. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est un an dans une vie ? C'est rien.
Oui, oui effectivement. C'est vous rien avez composé donc 52 titres,
exactement,
dont certains ont été écoutés sur Internet plus de 30 millions de fois, on est loin des 1000 vues, comme Brothers. Ouais. Eva Rock m'a l'air séduite.
Mais oui, ce titre, vous l'avez fait dans votre chambre, tout seul.
Entièrement.
On dirait un truc fait à Los Angeles avec Snoop Dogg et je sais pas quoi, mais enfin, c'est incroyable. Et Anne Le Gall ?
Et suite à ça, il a également réussi à remplir le Zénith de Rouen. Vous vous êtes retrouvé au Bataclan, vous vous attendiez à
en
tout
fait,
ça ?
Non, en fait, justement, ce problème, ce challenge-là, au bout de la 32e semaine, ça ne marchait toujours pas. C'est-à-dire
non.
que.
Ah, au bout de 32 titres ?
Vraiment, en fait, j'étais en fac d'anglais, j'ai arrêté la fac d'anglais parce que j'avais plus le temps de m'y consacrer. J'étais en 3e année, j'ai arrêté. J'avais qu'un seul petit job de surveillant et c'était vraiment la dèche. Mais la dèche, ma mère est femme de ménage et il y avait les huissiers qui étaient venus pendant le challenge pour essayer de réquisitionner du matos et enfin toutes les galères qu'on puisse imaginer. Au bout de la 30e semaine, toujours 3000 vues par semaine, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et c'est là qu'il y a un youtubeur assez connu qui a parlé de moi qui s'appelle Seb. Et c'est là que les gens se sont dit mais c'est qui ce gars français qui rappe en anglais et qui fait ces trucs tout seul et ça a pris par soi-même en fait. C'était
Jean-Philippe Ballas.
Moi, j'aimerais savoir comment vous avez été repéré par les Américains, parce que non, mais faut quand même imaginer. C'est un peu un gamin qui jouerait au foot sur un terrain vague en Normandie et qui serait soudain approché par le Real Madrid et le Barça. C'est ça qui vous est arrivé.
En fait, voilà exactement. Et quand ça a commencé à percer en France avec ce challenge, quand il y a eu un peu d'ampleur, il y a forcément eu beaucoup de labels qui ont commencé à m'approcher. Et je leur ai clairement dit, écoutez, je vais entamer aucune discussion tant que vous ne me trouvez pas vos affiliés aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que chaque label a des affiliés dans chaque pays. Et quand on sait ça, on peut se permettre de demander des choses. Ce que Universal a fait, ils ont envoyé des sons chez leurs affiliés aux États-Unis. Et en 2 semaines, j'avais littéralement tous les PDG des labels américains qui étaient en mode « Putain, on veut te rencontrer » parce que c'était beaucoup la story, je pense, qu'ils kiffaient du petit Normand dans sa chambre.
Et c'est un peu le rêve américain en Normandie.
Mais maintenant, après... Signer aux États-Unis ne veut pas dire percer aux États-Unis. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est mon premier album.
Étape énorme.
Et j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à prouver, je pense. Ouais.
Et vous avez aussi cette niaque un peu à l'américaine, j'ai envie de dire. Vous avez été un super élève. Vous avez eu, je crois, un bac scientifique, mention très bien.
Oui.
Est-ce que c'est un cliché d'imaginer que le rappeur n'a pas forcément mention très bien bac scientifique ou est-ce que vous vous sentez vous-même comme quelqu'un un peu d'à part dans le rap ?
C'est vrai que le fait de suivre une formation assez classique, bac S, mention très bien, etc., je l'ai fait surtout pour. Je suis issu d'une culture musulmane, les parents sont très sévères par rapport aux études. Et voilà, je veux rassurer la famille, mes parents sont immigrés, j'ai pas envie de les inquiéter en ayant aussi un mauvais parcours scolaire en plus de ça.
Juste un dernier mot, pourquoi pas en français ? Rapper en français, ça sonne pas bien le français ?
Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'était mes parents sont issus d'une culture musulmane et je suis très pudique avec mes parents, c'est-à-dire que je ne m'exprime pas.
Ah, donc c'est pour ça à la base ?
Voilà, je vais pas leur raconter mes histoires, mes hauts, mes bas, j'ai pas envie d'inquiéter ma famille pour ça. Donc quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes, ma mère dormait à côté dans la chambre et j'étais vraiment, vraiment très pudique et je me suis dit, le meilleur moyen de me cacher et d'être honnête dans mes écrits, c'est de le faire dans une langue que mes parents ne puissent pas comprendre,
et ben
donc
voilà.
L'anglais.
On a l'explication. Welcome to the jungle. Merci Riles Kassimi d'être passé nous voir sur Europe 1. Europe 1, numéro 1 sur le rap.
B-E-2-N-Y-D-16h-18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
16h52, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous savez que c'est la nouvelle émission de Mathieu Noël, tous les jours entre 16h et 18h. Il est en compagnie d'Eva Rock, des journalistes d'Europe 1, aussi venus défendre leurs meilleurs sujets. Sous la houlette, des invités, et c'est le cas à présent de Jérôme Lacroix, venu parler sport et tentant de convaincre l'acteur humoriste Harry Habitant. On retrouve donc Mathieu Noël face à lui, Harry Habitant.
Journaliste pour qui vous allez avoir une empathie immédiate puisque comme vous, il adore le foot et comme vous, il a beaucoup d'enfants. En papa débordé, vous partagez donc ce quotidien magique et parfois un peu moins magique.
Je suis chaud là. Après, je pars en sortie scolaire. Toute la journée au poney, là, ça va être wouhou.
Hein ? C'est l'enfer.
C'est pas pour ça que vous devez voter pour lui, mais bon. Disons que par solidarité paternelle, je pense que vous ne le placerez pas dernier. Comment vous vous sentez, Jérôme ?
Flasque.
Bah, il faut y aller quand même, mon GG. Aujourd'hui, à l'heure où certains militent pour que ce soit non plus un joueur, mais la buteuse américaine Megan Rapinoe qui soit sur la jaquette du jeu vidéo FIFA 2020, qui est le produit culturel le plus vendu au monde, vous avez enquêté pour nous sur l'impact de la Coupe du Monde féminine de foot, dont on a évidemment énormément parlé en juin, hein, avec les matchs en prime time sur TF1. Est-ce que cet engouement a eu des retombées concrètes sur le foot féminin ou bien ça fait pchit ?
Écoutez ça. Et ça, alors, ça fait pchit. Ambiance captée samedi à Lyon. Lyon-Marseille, c'était un match de D1, puisque c'était la première division française qui reprenait hier et avant-hier. 2000 personnes au stade des filles de Lyon, c'était plein. Victoire 6-0 contre les Marseillaises, tout juste de retour en première division.
Je vous en prie.
Voilà, pas de chance. Alors, il n'y a pas effet Coupe du Monde là ? Bah oui et non, en fait. Ah ouais. Ça s'est bien passé
comme
ça. Oui,
parce que 2000 personnes, ouais.
Ça s'est bien passé comme ça à Lyon. Non, mais là, pour le coup,
oui, puis Lyon, c'est l'équipe numéro 1, donc voilà, même en Europe.
Ça s'est passé comme ça à Lyon. À Paris aussi, c'était hier, 1500 personnes pour le PSG qui ont gagné au passage, je le dis pour Harry, les filles du PSG ont gagné 7-0 à leur premier match. Et ces deux clubs, il faut bien le dire, c'est l'exception parce qu'en venant au stade, vous voyez des stars, notamment des bleus comme Amandine Henry ou Eugénie.
Mais comment plein à 2000 personnes, je comprends pas.
Alors là, le stade des filles de Lyon, c'est une tribune en fait. Non, mais en plus, on peut en parler, non, mais c'est le stade d'entraînement en fait.
Ah,
et il y a 2000 personnes.
La plénitude.
La tribune était pleine. Sinon, sur les autres stades, affluence vraiment moyenne à 300 personnes à Montpellier, à Guingamp, 250 à Bondoufle en région parisienne pour match du Paris.
Il y avait plus de monde pour venir voir jouer Harry à Sarcelles quand il était jeune.
Faut s'en réjouir.
C'est de la D1, t'imagines la division d'honneur ou quoi.
Et sachant que la saison passée, la moyenne des affluences était environ 500 personnes. Pas d'effet immédiat pour l'instant, en tout cas. Après, on est en plein cœur de l'été, voilà. Pas d'effet immédiat, en tout cas, du côté du répondant.
Mais donc,
du
ce que vous nous dites, c'est que ça n'a rien changé cette Coupe du Monde.
Si, le foot au féminin en France y grandit. Un élément et pas des moindres qu'il prouve, cette D1, donc le championnat de France, il est maintenant sponsorisé. C'est un naming, comme on dit. C'est le groupe Arkema, le sponsor. C'est un groupe français, un acteur mondial de la chimie, un gros acteur, qui va injecter 1 million d'euros pour le foot des Françaises. Donc ce naming, c'est vraiment inédit. Et puis, conséquence directe et concrète pour chacun des 12 clubs de la D1 française, 80 000 euros qui vont être injectés dans les clubs. Ça représente pour la plupart près de 10% du budget annuel qui se situe, sauf pour Lyon et PSG, on a bien compris que c'est hors catégorie, aux alentours du million d'euros. Donc un sponsor pour la D1, ça montre que c'est vraiment la naissance d'un modèle économique. Les entreprises sont prêtes à investir dans le foot au féminin, mis en appétit, notamment, voilà le lien avec la Coupe du Monde, par les audiences
du Mondial.
Voilà, 9 à 12 millions pour les Bleus. Mais même les autres affiches avaient connu du succès. D'ailleurs, les droits télé de la D1 féminine, ça aussi, c'est un enjeu capital. En moins de 10 ans, ils ont décuplé 110 000 euros annuels, par exemple, en 2011. Et là, le groupe Canal les paie désormais plus d'un million par saison. Et pour les Bleus, pour l'équipe de France, c'est le groupe M6 qui va diffuser les matchs. Et surtout W9. D'ailleurs, ils songent à rebaptiser la chaîne W9. Non, c'est pas vrai.
Ça pourrait être tenu contre vous en fin d'émission.
Il vient de perdre sa place de numéro 1.
Tout de suite.
Mais pourquoi t'as dit c'est pas vrai après ?
C'est dommage.
C'est dommage. Tu vois, une bonne vanne, c'est qu'il y en a W9. Merci à vous. Et là, tu repasses l'antenne.
Et là, tu enchaînes.
Mais oui, c'est pas vrai. C'est fou de faire ça.
C'est pour ça que vous êtes à votre place.
Jérôme, je comprends le modèle économique qui est en train de se dessiner, mais est-ce que les joueuses vont bénéficier de cette évolution ?
Alors oui, mais vraiment petit à petit. Avant le mondial, tenez, question. Salaire moyen brut mensuel d'une joueuse de D1, à votre avis ?
À peu près. 2000 euros.
Bingo, ouais. Quasiment 2500 euros. Voilà, ces salaires des filles devraient augmenter cette saison, et notamment les Françaises qui deviennent bankable, comme on dit. Et ça doit leur permettre, ça doit permettre à plus de joueuses de vivre désormais du foot, parce qu'aujourd'hui en D1, 40% des joueuses environ doivent cumuler foot et un job à côté. Mais je rappelle qu'il y a des exceptions. Il y en a qui sont très bien rémunérées, comme la joueuse de Lyon, la star norvégienne Ada Egerberg, la première Ballon d'Or. Et Amandine Henry,
Amandine Henry, avec qui j'ai passé des vacances d'ailleurs.
C'est-à-dire
qu'on a joué au football ensemble.
Et alors, ça fait quoi ? Je me suis toujours demandé, elle vous défonce ?
Elle est extraordinairement habile, elle est très forte, elle joue très très bien et elle a mis tout le monde dans le vent, quoi. Voilà,
clairement. Ah oui, très facilement.
Ouais, très facilement.
Justement, Harry, je me demandais, est-ce que moi, par exemple, quand la Coupe du Monde féminine a été annoncée sur TF1, je me suis dit oui, je vais regarder les matchs de l'équipe de France, voilà. Et puis finalement, je me suis vraiment pris au jeu, j'ai regardé tous les matchs.
Bien sûr.
Les matchs.
Non, mais ça reste des très beaux matchs. Et puis je sais pas, c'est fluide, c'est un autre style, mais quand t'aimes le football, peu importe, voilà, t'aimes aussi le football féminin.
Jérôme Lacroix, pour pimenter la compétition, il y a cette règle aussi injuste que dégueulasse que je viens juste de créer. La question vache de l'autre chroniqueur. Axel de Tarlé, je vous sens dubitatif quant au travail de votre collègue. Quelle question avez-vous envie de poser à Jérôme ?
Il est content.
Je jubile à l'idée de la poser. Vous êtes tous là, la Coupe du Monde féminine football. C'est fantastique, c'était formidable. J'ai regardé tous les matchs. Question toute simple. C'était quoi la finale ? Contre qui et quel a été le score ?
États-Unis, Pays-Bas.
Exactement.
C'était fantastique, j'ai regardé tous les matchs.
C'était 3-0, 3-1, un truc comme ça.
C'est 3-1.
C'est ça.
2-0, premier but de Megan Rapinoe sur un penalty.
Oui, mais en même temps, il a eu tout le temps d'aller chercher sa question.
Mais moi, j'avais regardé tous les matchs.
Il est méchant, hein, Axel de Tarlay. Il est méchant.
Bon. Il a vraiment un mauvais fond.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
En cette rentrée, on retrouve donc Mathieu Noël les après-midi entre 16h et 18h. Et pour les moments marquants, eh bien on vous réserve le meilleur le week-end. Mathieu Noël, entouré des journalistes d'Europe 1, prêts à séduire, à convaincre les invités de Mathieu Noël en présentant leur meilleur sujet. S'informer tout en s'amusant, c'est la promesse donc de cette prochaine heure. L'équipe est sauvage, se poursuit en compagnie d'Eva Rock et des chroniqueurs venus donc jouer des coudes.
La compétition fratricide entre les journalistes d'Europe 1 continue. Anissa Mbida, vous êtes notre spécialiste high-tech et innovation. Vous allez à présent nous parler d'un effet secondaire redoutable d'Instagram, le surtourisme. Mathieu Charrier, votre rival sur cette manche, est tout oui.
Carrément rien à branler.
Non, non, vous êtes tout oui, Mathieu. On a dit qu'on était fair play. Hein. Alors Anissa, ne vous laissez pas déstabiliser. Allez-y, j'ai envie de dire, croyez en votre bonne étoile.
Moi, je vais vous donner une astuce pour éviter le surtourisme, hein, c'est préserver des petits coins de beauté que l'on photographie. Parce que ça nous est tous déjà arrivé, on arrive dans un endroit superbe, on veut l'immortaliser, on fait une petite photo.
On est rarement boum, le seul dans ces moments-là.
Et boum, on la met sur Instagram. Parfois, on est tout seul, justement. Et c'est ça le problème, parce que quand on s'appelle Grand Corps Malade ou Mehdi, ou qu'on est un influenceur comme vous...
Alors moi, comme influenceur, tu vois, ça ne va pas chercher loin.
La photo qu'on a publiée peut être vue par des millions et des millions de personnes qui veulent du coup faire la même photo, puisqu'elle est géolocalisée, ils veulent faire exactement la même photo. Donc parfois, dans les petits coins où c'est pas prévu de recevoir énormément de monde. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des milliers de personnes qui affluent. Parfois, dans ces personnes, il y a des indélicats qui laissent traîner des choses, qui piétinent sans le savoir. Et ça, l'endroit finit par être totalement saccagé. On a des tas d'exemples comme ça. Le plus récent, c'était une énorme colline aux États-Unis où il y avait des coquelicots. Elle était toute orange, elle était fabuleuse. Et quelques semaines après la première photo publiée par un influenceur, elle était complètement ravagée.
Les gens marchaient sur les coquelicots ?
Ben oui, parce qu'ils venaient par centaines, par dizaines de milliers dans un endroit qui n'était pas prévu.
Ben ça, vous n'avez pas raison dans de le prendre Var, de la connerie humaine en,
dans le, mais si, justement,
en deux minutes, Tanissé.
Et la petite astuce, justement, pour réduire le problème de la connerie humaine, ben c'est justement de faire un peu comme fait Grand Corps Malade. Grand Corps Malade a pas mal de photos. Alors lui, en général, c'est plutôt ses potes, des photos dans les prisons, des photos à la fête de l'humain, mais j'ai regardé un peu plus loin. Ouais, il a ça dans son Instagram. Et quand on descend un petit peu dans son Insta, on trouve des photos. J'adore une photo d'un oiseau qui est Instabouf.
Ouais, j'avais lancé un concours de la photo la plus beau.
Vous avez gagné.
J'ai vu d'autres photos aussi qu'il a faites. La photo qu'on fait tous, vous savez, on est dans un hôtel magnifique, on voit la vue de l'hôtel, c'est en Asie, je crois.
Ouais, exact, ouais.
C'est en Asie. Et on fait comme ça des photos. Et le problème, c'est que ce que fait Grand Corps Malade, lui, il ne met pas de géolocalisation. Les photos ne sont pas géolocalisées. Mais le WWF a une meilleure idée que ça, c'est de dire de géolocaliser la photo, mais à un autre endroit. Plutôt que de dire.
Ça, c'est vicieux, le WWF.
Mais non, mais c'est pas n'importe quel endroit. Vous savez, quand on poste une photo sur Instagram et qu'on donne l'endroit où elle est localisée, on tape dans un moteur de recherche. On dit Europe 1, par exemple, ou bien tel hôtel, etc., tel restaurant. Et bien là, on met un petit message qui s'appelle « I protect nature ». Donc ouais. En fait, au lieu d'avoir la géolocalisation du lieu, on a un message « Je protège la nature ». Donc non seulement le lieu est masqué,
et on
mais ceux
son
qui
engagement.
Veulent venir dans le même lieu, et on dit « On protège la nature ». Donc on a un petit acte un peu militant et on préserve l'endroit que l'on a trouvé magnifique justement et qu'on
malin.
Veut immortaliser.
Et c'est vrai que ça va parfois loin, c'est cette mode des selfies. Il y a des selfies qui ont donné lieu à des accidents à Nice.
Ah oui, mais il y a quelques jours, c'était il y a 10 jours en Australie, une femme qui est morte. C'est grave parce qu'elle est tombée d'une falaise.
Pas souvent, là. C'est
grave. Ouais. C'est grave.
C'est une galère.
Non, mais pour une photo, pour un banal selfie, elle est morte. Bon, c'est arrivé. Et il y a même comme ça, vous savez combien il y a eu de morts à cause de selfies? Entre 2011 et 2017, il y a eu 259 morts. C'est plus que de morts attaquées par un requin, vous voyez?
Non.
C'est complètement incroyable. Donc, pour une photo, pour immortaliser, on arrive parfois à se mettre dans des situations pas possibles. Et vous savez, c'est en Inde. Où il y a la moitié des morts par photo, par selfie. C'est
pourquoi, en Inde. Qu'est-ce qui se passe de spécial en Inde?
Je ne sais pas, dans la culture. Je ne sais pas pourquoi c'est en Inde.
Dans la culture indienne. Attention, on va avoir des problèmes, Anissa.
Dans la culture indienne. Non, mais on rigole, mais il y a des tas de sites comme ça qui se moquent en disant la dernière photo avant la mort de selfie. Beaucoup de gens se moquent de ça. Mais il y a des choses un peu dramatiques. Le gouvernement indien, justement, a commencé à protéger énormément de lieux, à mettre des messages, parce que les gens ne font pas attention.
Ils mettent des rambardes, quoi, au bord des falaises.
Mais les gens passent par-dessus les rambardes aussi pour vraiment faire la photo. Donc,
ça revient à ce que je vous disais, vraiment faire attention. Si on en est à passer derrière une rambarde pour prendre un selfie, malheureusement, il n'y a pas vraiment. différentes solutions.
Vous imaginez celui qui veut faire un selfie avec un requin et il a un pourcentage de morts assuré.
C'était une bonne chute, Eva. Je vous remercie. Merci à Nice. Vous connaissez la règle, vous n'y échapperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Et lui, autant vous dire qu'il n'a pas fallu beaucoup le pousser. Mathieu Charrier, vous avez une question pour Anissé.
Non, Anissé se targue d'être jeune, de faire des chroniques jeunes. Est-ce que Instagram, c'est pas complètement dépassé? On a Snapchat aujourd'hui, Anissé.
Je pense qu'il n'est pas tout à fait au courant. Snapchat, c'était hier. Instagram, c'est demain. On lui explique
et
comment ça fonctionne.
Il pensait rebondir.
On lui explique. C'est pas moi qui vais le dire. Je demandais juste à nos invités, entre Snapchat et Instagram, qui est le réseau le plus en vogue aujourd'hui?
Il me regarde avec ses petits yeux là, je peux pas Instagram. Je suis désolé.
Vous avez quel âge ?
J'ai 40 ans.
Tout est dit.
On ne les mettra pas d'accord.
Vraiment que Snapchat, c'est déjà la fin. Ouais, apparemment.
Et quand, voilà. Mais quand vous avez tourné avec les collégiens, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels ils vont généralement ?
Ben, justement, Médidia. C'était beaucoup sur Snapchat. On leur a tous dit de créer un compte Instagram pour stop prévision de la sortie du film. Et du coup, maintenant ils sont plus sur Instagram. Je jure que c'est vrai.
Mais juste pour préciser. Quand même, il y a aussi des géolocalisations sur Snapchat et c'est quand même pas une bonne chose de géolocaliser ses photos. Mettez ce petit hashtag, ça préserve des endroits et ça évite qu'ils soient piétinés.
Merci beaucoup Anissé Mbida.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
17h12, l'équipe est sauvage. Nouveau rendez-vous sur Europe 1 qui se poursuit donc jusqu'à 18h avec Mathieu Noël et sa bande. Et ses invités placent maintenant à la journaliste Élise Lucet, présentatrice, vous le savez, de Cache Investigation et d'Envoyé spécial sur France 2.
Alors je sais, Élise, que vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé avant vous, mais depuis 30 ans avec mon psy, je cherche un coupable. Si je suis l'homme que je suis, avec toutes ses failles, tous ses défauts et, pour le dire crûment, tous ses vices, c'est à cause du générique d'Envoyé spécial des années 90. J'étais un enfant innocent, timide, potelé. J'étais trop jeune pour voir un film d'horreur. Or, expliquez-moi, rétrospectivement, ce qu'est le générique d'Envoyé spécial, sinon un film d'horreur. Alors mes parents, ils adoraient l'émission, j'ai fait pipi au lit jusqu'à 12 ans à cause d'Envoyé spécial.
Il faut que je vous fasse un aveu.
Vous aussi, vous ?
Un peu.
Ah.
Et ben, alors vous savez quoi ?
Dans votre position, vous pouvez le faire changer.
Eh bien, on l'a fait changer.
Oui, il a changé un petit peu. Mais
ah non, il a changé beaucoup.
Non, c'est vrai, il est beaucoup moins flippant.
Parce que le «
waouh ». Oui, le « waouh », ça sortait.
Quand on est arrivé, on a dit « non, ça, c'est pas possible, quoi ».
Ouais, voilà.
C'est les sorcières de Salem.
Exactement.
Voilà, on s'est dit « non, 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 non ». Donc, Eva. Alex Jaffray, c'est lui qui a transformé le générique d'Envoyé spécial, justement, pour la nouvelle version.
C'est
vrai il avait une consigne.
C'est d'enlever le
« ouais, exactement, exactement. Donc, je vous comprends fort bien et je suis désolée pour ce qui vous est arrivé dans votre enfance.
Merci beaucoup, Eva.
C'est là où je m'aperçois qu'on n'est pas du tout de la même génération, Mathieu, parce que moi,
oui,
ce qui me faisait flipper,
c'était les jours.
Oui,
vous vous tirez pas une balle dans le pied tous les jours.
C'était les dossiers de l'écran, moi, qui me faisaient flipper.
Ah oui, ça n'est pas connu.
Je me planquais sous le canapé.
Ah oui.
Ouais, tellement j'avais peur.
Et l'entrée du train en gare de la Ciotat aussi, ça vous a laissé un souvenir intéressant, je crois.
Non, je tournais dedans, c'était pas grave.
Envoyé spécial, c'est un succès qui ne se dément pas. Mais vous le savez, Élise, le succès suscite forcément des jalousies, des critiques. Vous en recevez parfois. Marlène Schiappa, pour un reportage diffusé d'Envoyé spécial, avait dit que votre angle, c'était sur les politiques, reflétait, je cite, une forme de populisme. Sans les accepter, bien sûr, est-ce que vous comprenez parfois que des accusations de populisme puissent vous tomber dessus? C'est quand on vulgarise parfois un sujet complexe, on a ce genre d'accusation.
Écoutez, très franchement, je pense qu'on ne peut absolument pas accuser Envoyé spécial ni Cache Investigation de populisme. Vulgariser, c'est pas le bon mot, je trouve. C'est apporter à la connaissance d'abord. Hein. Qu'est-ce que c'est le boulot d'un journaliste? C'est aller chercher la vérité, première chose. La rendre totalement compréhensible pour tout le monde. Et surtout quand on est sur un média télévisuel de prime time. Donc on s'adresse à tous. Si effectivement le fait de faire du journalisme, y compris du journalisme d'investigation, d'Envoyé spécial ou dans Cache Investigation, d'aller chercher des choses que des entreprises ou des ministres n'ont pas tellement envie qu'on raconte, ça c'est du populisme. Bah, effectivement, on n'a pas du tout la même vision du populisme. Nous, on est dans une démarche extrêmement claire. On est service public. On porte à la connaissance des téléspectateurs des informations parfois extrêmement complexes, parfois extrêmement cachées, et que certains n'ont pas envie de voir révélées. C'est pas du populisme, c'est exactement ce pourquoi vous payez une redevance télévisuelle. Et puis, moi, vous savez, il y a énormément de gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me parlent,
et qui me disent une chose, continuez, on est avec vous. Parce qu'en fait, ils ont le sentiment que
75% des Français, selon le sondage Ipsos, font confiance à un envoyé spécial, justement pour leur révéler des affaires, et juste devant Cache Investigation.
Oui, mais parce que parfois, ils ont l'impression que l'information s'arrête un peu à un vernis, à ce brouhaha du tout info qu'on entend. Et puis, ils se disent, tiens, voilà des émissions, et on n'est pas les seuls. Je veux dire, il y a aussi Complément d'enquête, il y a aussi d'autres émissions qui font ça. Hein, je veux dire, ne nous tressons pas des couronnes de laurier, mais le magazine, quand on va chercher un peu au fond des choses, et quand on raconte ça aux téléspectateurs, et qu'en gros, on mouille la chemise, on remonte nos bas de chemise pour aller chercher la vérité pour eux, et qu'on le fait avec intégrité et sincérité, mais moi, j'entends à longueur de temps, allez-y, continuez, on est avec vous, et c'est ce qu'on veut.
Mais vous n'avez pas, en revanche, au téléphone, les boîtes furieuses qui appellent d'être ainsi révélées au grand public, de révéler ainsi au grand public leur petit secret.
Vous savez quoi, Axel ? Non, parce qu'elles ont peur d'être enregistrées.
Ah bon ?
Génial ça,
bien
en
vu.
Fait, la plupart des grandes sociétés, des grandes entreprises sur lesquelles on enquête se plaignent à la présidente de France Télévisions, mais jamais à nous. Moi, ils m'appellent jamais parce qu'ils se disent en fait, elle a un enregistreur automatique sur son téléphone et elle enregistre tout. Ce qui est vrai.
Europe 1, 16h, 18h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Et oui, pour faire le plein de bonne humeur, les après-midi sur Europe 1, c'est un nouveau rendez-vous. L'équipe est sauvage, donc entre 16h et 18h en semaine. Et aussi, le week-end, on se fait plaisir. On va retrouver donc Mathieu Noël, Eva Rock. Et puis, la journaliste Élise Lucet, l'invitée de l'équipe est sauvage pour la séquence qui suit. Et Mathieu Noël lui a concocté un petit quiz, info bidon ou pas.
Élise Lucet, vous avez un tempérament bien trempé et ça va vous être précieux maintenant, car l'heure est venue de vous mesurer à Eva Rock. Et comme à la rédaction d'Équipe Sauvage, vous êtes un exemple journalistique pour nous, on essaie de faire un quiz fake news ou pas fake news. Principe simple, à tour de rôle, je vous donne des infos. Vous me dites si elles sont bidons ou pas. On commence avec vous, Élise Lucet. En France, dans le Gard, à l'entrée du village de Saint-André de Valborgne, un panneau installé par le maire prévient « Ici, un coq chante fort, les vaches ont des cloches autour du cou et les clochers sonnent ». Vrai ou faux ?
Vrai.
Et oui, c'est une pancarte humoristique installée par le maire de ce village de 400 habitants. Et c'est vrai que de plus en plus de citadins se plaignent, de citadins qui viennent habiter campagne, maisons secondaires et autres, se plaignent des bruits pourtant naturels de la campagne.
Oui, mais bien, en plus, en ville, il n'y a pas du tout de bruit.
Oui, évidemment, ils sont dérangés par aucun bruit. Eva Rock, on connaît les détecteurs pour empêcher les gens de fumer. Au Pays de Galles, des toilettes publiques sont équipées de détecteurs pour empêcher les gens de faire l'amour dedans. Vrai ou faux ?
Faux. Puis j'espère bien que c'est faux. Non mais franchement.
Oui, mais là vous confondez un petit peu ce qui peut vous intéresser vous personnellement et l'exactitude d'une réponse. Eh bien vous avez tort, car c'est vrai.
Oh, mais c'est
ce sont des toilettes publiques qui sont équipées de détecteurs de poids et de mouvement. Si un comportement inapproprié est détecté, les portes s'ouvrent automatiquement. On est au spectacle. Moi je m'y rends souvent et j'assiste et j'attends que les portes s'ouvrent.
C'est peut-être pour éviter que les gens restent trop longtemps dans les toilettes publiques.
Peut-être, mais un détecteur de mouvement, il faut détecter un mouvement inapproprié.
Mais
Mathieu.
Ça veut dire quoi, inapproprié en plus ?
Cette fois-ci, je vous donne 3 infos. À vous de trouver la vraie parmi les fake news. Dans l'état de Virginie, aux États-Unis, si on meurt, on a le droit à une dernière volonté assez étonnante. 1. On peut demander à ce que son animal de compagnie, pourtant en bonne santé, soit euthanasié pour que ses cendres nous accompagnent. 2. On peut demander à une personne de son choix de faire un discours à ses funérailles. Si elle refuse, elle risque une amende. Ou 3. On a le droit à une éloge funèbre de 2 minutes sur la chaîne Virginia News, l'antenne locale de Fox News.
Je vous laisse répondre en premier, Elisa.
C'est sympa, merci Eva.
Non, mais non, eh ben non, parce que...
Non.
C'est la politesse.
3.
L'éloge funèbre sur Fox News.
Et j'aurais dit pareil.
Vous auriez dit pareil ? Oui. Vous avez toutes les deux tort. On peut demander à ce que son animal de compagnie...
On peut demander.
Emma, une petite chienne Shih Tzu, a été euthanasiée en juin dernier car sa maîtresse voulait être enterrée avec elle. Et oui, le refuge en charge de l'animal était persuadé de pouvoir lui trouver une famille, mais les dernières volontés du défunt ont été respectées. Les deux urnes ont été placées côte à côte dans la sépulture. Voilà une belle loi.
C'est triste. C'est
pas incroyable.
Très américain, ça. Normalement, ils sont étonnants. Avec les animaux de compagnie, ils sont complètement...
Oui. J'espère que Brigitte Bardot ne nous écoute pas. Attention, 3 infos à vous de trouver la vraie parmi les fake news.
Donc il y en a une seule de vraie.
Il y en a une seule de vraie. Au Punjab, dans le nord de l'Inde, il faut faire quelque chose d'étonnant si on veut obtenir un port d'armes. 1. Il faut planter 10 arbres. 2. Il faut passer 20 heures dans une maison de retraite pour rendre visite à des anciens. Ou 3. Il faut ramasser 30 kilos de déjections canines.
Alors moi je vais dire 1.
Et moi, je dis la 2, la maison de retraite.
C'est parfait, comme ça, vous perdez. Élise Lucet remporte le quiz. Et oui, il faut planter des arbres en Inde.
Il était trop content que je perde.
C'est une satisfaction qu'il a dans le regard.
Mais je suis une boule de vis. Ces dernières années, dans la région, les routes ont été élargies. Beaucoup d'arbres ont été coupés. Vous vous en foutez de ce qui se passe en Inde. Mais moi, je vous le dis quand même. Il a fallu trouver une solution. Dans le dossier de candidature pour se voir délivrer le port d'armes, il faut donc ajouter un selfie devant une pousse d'arbre. Et un mois plus tard, la même photo montrant que l'arbre pousse effectivement. Il rigole pas en Inde.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il est 17h25, de l'info et du sourire toujours. Avec Mathieu Noël, Eva Roque, les chroniqueurs de l'équipe est sauvage. À chaque jour, un invité, on le rappelle. Et le week-end, eh bien, on vous offre les moments essentiels à retrouver. Donc. Et cette fois, c'est l'acteur humoriste Harry Habitant qui est face à Mathieu Noël.
La responsabilité qui pèse sur vos épaules est immense. Elle n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de César qui, à la fin du combat des gladiateurs, levait ou baissait le pouce face à vous. Moritourite et salutante, notre premier compétiteur du jour, le brave Axel de Tarlé. Axel, vous nous parlez aujourd'hui des grèves qui frappent la compagnie aérienne low-cost Ryanair. En quoi cela peut-il intéresser Harry Habitant, qui ne vole qu'en business sur Emirates, comme on le fait tous? Allez-y Axel, Harry, je vous écoute quand même.
Surtout pour aller à Toulon. Ouais.
Harry, j'ai vu toutes vos dates là, avec toutes les villes.
Ouais,
vous
n'allez
pas me faire croire que vous allez à Tours et à Melun avec Emirates. Donc...
Il redit la vanne. Hein.
Ouais, c'est le principe d'Axel.
Non mais c'est fou. Ouais, ouais.
C'est la précision.
Il est en replay déjà, alors que nous on est en direct.
C'est le problème.
J'ai une chronique Axel, à défendre et j'ai une première place à gagner.
Voilà. Défendez votre chronique.
Donc je vais vous parler de Ryanair. Ryanair, en fait, le vrai news, c'est que Ryanair ferme des bases en Espagne et commence à supprimer des emplois, comme si on avait atteint un maximum dans ce modèle des compagnies low cost, qui c'est vrai a du plomb dans l'aile. Alors à deux niveaux. Un, d'abord un niveau économique et deux, au niveau sociétal. Au niveau économique, bah Ryanair, ça, toutes les low cost ont marché avec des méthodes de pirates. Ils exigeaient des villes où ils arrivaient des subventions. Les pilotes sont employés sous le statut d'auto-entrepreneur.
Non.
Oui. Il y avait interdiction de syndicats. Bon, tout ça a volé en éclats. Donc maintenant, ils sont obligés de rentrer dans le rang. Ce qui fait que ils ont un peu de mal à casser les prix. Et puis surtout, il y a une deuxième chose dont on a beaucoup parlé. Vous savez, c'est ce fameux phénomène qui nous est venu de Suède. C'est la honte de voler. On s'est rendu compte que...
Dites-le, ça a un nom en suédois.
Oui, Flixcam, hein, je crois
que
c'est
ça. Oui, ça doit être ça. Voilà. On va pas chercher de toutes les façons. Hein.
On s'est rendu compte que l'aérien, c'était 4% des émissions mondiales de CO2. Et donc, il y a tout des jeunes notamment qui disent, écoutez, c'est fini pour ces escapades, ça pollue trop, il faut redécouvrir le train. Ce qui fait qu'en Suède...
Un week-end, vous n'allez pas partir en Norvège en train. Donc,
justement, c'est peut-être la fin de ces escapades à travers l'Europe, à des prix à défier toute concurrence. Enfin, j'ai encore regardé, je vous ai trouvé là, des vols pour Venise à 12,99 €. Il y a même un vol, alors je ne sais pas si c'est en Pologne, j'ai vu, Wrocław à 9,99 €.
Il faut rajouter 15 000 supplément.
Et ouais, et il faut passer par Zanzibar aussi.
Ouais, c'est ça.
Petite escale. Ouais.
Non, mais on en arrive à une aberration où le vol coûte moins cher que l'autocar pour y aller à l'aéroport.
Parce que l'aéroport n'est jamais en plus. Voilà.
Et en fait, on se rend compte que faire un vol, ça n'est pas anodin. Il y a un coût économique qu'il faut quand même facturer. Il y a un coût environnemental qu'il faut facturer. Et donc, à mon avis, on va vers la... C'est un peu la faillite de ce modèle économique et environnemental, de ce modèle low cost. C'est intéressant parce qu'on commençait à nous vendre l'idée que maintenant, on allait faire du low cost vers les États-Unis.
Mais pourtant, ça existe. Mais ça va vers les États-Unis.
Oui, avec les 737 MAX cloués au sol.
Exactement.
Et qui est obligé d'annuler les vols. Bon.
Et donc ça, vous nous dites que c'est plus viable non plus?
Eh bien oui, je dis que c'est comme pour l'alimentation, on revient vers les circuits courts. Et au fond, c'est ces idées d'une escapade, enfin quand même l'idée d'un week-end à New York, c'est ridicule. Même d'ailleurs, on voit rien que pour le décalage horaire, c'est contre nature. Donc un petit peu comme dans l'alimentation, on remet le circuit court à la mode. Je pense qu'en matière de tourisme, on va revenir vers les circuits courts. Ça veut dire que plutôt que ces escapades à Berlin, à
Venise, calmez-vous Axel, ne me pointez pas du doigt.
On va redécouvrir la Lozère, le Cantal et le Finistère. Alors oui, ça fera peut-être un peu moins chic de dire j'ai passé mon week-end à Guéret.
Mais non, c'est bien.
Mais voilà, exactement.
C'est très bien Guéret.
Voilà,
j'ai de la famille là-bas. Je les embrasse. Harry Habitant, en tant qu'invité d'honneur, votre vote contrat triple, je le rappelle à la fin. Est-ce qu'à ce stade, Axel peut encore espérer avoir votre voix?
Écoutez, j'attends quand même d'avoir laissons la justice faire son travail, monsieur. Merci.
Il a quand même un petit espoir. Merci pour lui, Axel. Je vous laisse remercier Harry.
Vous êtes riche et en plus,
vous avez du goût.
Merci Axel de parler.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu oui. Noël.
Elle est sauvage, cette équipe, elle nous offre tous les jours sur Europe 1 deux heures de bonne humeur pour apprendre tout en s'amusant en compagnie des journalistes d'Europe 1 venus défendre leur meilleur sujet en espérant bien sûr être choisis par les invités. On va continuer avec Bruno Salomon, le comédien et l'humoriste, invité donc de Mathieu Noël.
Vous êtes un grand timide, à mon sens, Bruno Salomon.
Hypersensible.
C'est hyper
je suis
sensible.
Hyper sensible et délicat.
Extrêmement délicat. Exactement. Et c'est ce que j'aime chez vous. Ce que j'ai découvert d'ailleurs. Attention, oui, c'est ma minute Michel Drucker. Bruno Salomon, en préparant cette émission...
Il vient souvent Michel Drucker chez vous.
Et très souvent, parce qu'il m'a marqué. Il a été un peu mon pygmalion, on peut le dire. On l'embrasse, Michel, si tu nous écoutes. Moi qui, de loin, vous imaginez un peu grande gueule, Bruno Salomon, un peu sûr de vous, fier à bras. J'ai découvert au fil des portraits, des interviews, un homme qui doute. Vous dites, je cite, « J'ai une tendresse infinie pour ceux qui hésitent, qui s'interrogent, qui se remettent en question. Moi, je suis un doutier. »
Je pourrais faire pousser un doutier, c'est ce que j'avais dit. Oui, je suis très touché par les gens qui doutent parce que j'ai l'impression qu'ils ont la sensation de ne pas être arrivés, donc ils vont encore évoluer. Les gens qui sont déjà là, ils sont installés, ils sont sûrs d'eux, souvent ça me met mal à l'aise. Je pense qu'au contraire, ils se trompent, on ne sait jamais.
Et c'est vrai que c'est magnifique de douter, ça a en tout cas donné de très belles chansons.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer.
Anne Sylvestre. Ouais, c'est une chanson que j'adore et j'ai vu que vous la citiez dans une interview, c'est pour ça que j'ai eu envie de la mettre, parce que c'est une passion commune qu'on a peut-être pour Anne Sylvestre.
Et repris par Vincent Delerme, qui est pas mal d'ailleurs.
Très très bien très la version de Vincent Delerme aussi. Ouais. Parfois on entend des chansons, on se dit tiens lui il a pas assez douté. Non, pas d'exemple. Mais non. Sans con. Mais non, mais c'est. Ouais, bon. Ok. J'espère qu'on n'a pas reconnu. Puisqu'on est dans
non,
le doute.
Non, les cons, ça ose tout. C'est
ça
odieux,
qu'on les reconnaît.
Oui, c'est ça qu'on les
Puisqu'on est dans le doute et dans la nostalgie, je crois que c'est le moment de parler de Fais pas ci, fais pas ça. Beaucoup de gens vous identifient à votre personnage de Denis Boulay. Mm-hmm. Vous avez vécu avec ce personnage pendant près de 10 ans.
Et c'est pas facile de s'appeler Boulay, je peux vous le dire. Quand les gens vous reconnaissent dans leur. Boulay
On vous l'a fait souvent, ça.
Vous l'avez non, ça m'arrive.
Est-ce qu'il vous manque ce personnage aujourd'hui?
Vu que j'en fais à foison dans mon spectacle, non, ça me manque pas, parce que j'aime bien faire des nouveaux personnages, j'aime bien me renouveler, mais j'avoue que j'ai passé des moments incroyables avec tous ces comédiens, et puis 9 ans c'est avec les enfants et tout, enfin, c'était vraiment une épopée fantastique pour moi. Ouais. En plus, elle avait du sens, cette série, c'était pas uniquement du divertissement, c'est ça que j'aime. Il y avait un fond, c'est des bobos d'un côté, des règles de l'autre, les bobos fabriquent des règles, les règles fabriquent des bobos, et tout ça, ça cohabite. C'est ça qui est joli.
Est-ce qu'on vous reverra, Bruno Salomon, dans une série? Parce que moi, je vous avais découvert en fait en 2009 dans une série d'M6, qui était une adaptation d'une série britannique, je crois, qui s'appelait La pire semaine de ma vie, dans laquelle vous étiez excellent. Je suis désolé de refaire le Michel Drucker, mais moi, c'est là que je vous ai découvert.
Formidable,
en fait.
Souvenez-vous.
Incroyable.
D'ailleurs, vous n'êtes pas loin, votre voix un peu comme ça.
Je suis très loin de ça.
Vous avez une voix un peu comme ça. C'est entre Maïté et Michel Drucker. Non, c'est pas trop.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Oui, vous écoutez l'équipe est sauvage avec Mathieu Noël et ses chroniqueurs, des journalistes d'Europe 1, où comment s'informer tout en se divertissant. Chacun y va de son sujet. Ben oui, il faut séduire l'invité. On va prendre tout de suite la direction de Lille.
Lille, où on retrouve tout de suite le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour Lionel.
C'est donc la braderie de Lille. Comme tous les ans, on va ingurgiter des centaines de tonnes de moules, surtout vous. Et pour la deuxième fois cette année, on va récupérer les coquilles de moules vides pour les transformer en carrelage.
Ouais. Ça vous embouche un coin.
Ah,
hein.
Ça m'embouche un coin. J'aimerais bien que vous m'expliquiez.
Alors, en fait, c'est une start-up qui est spécialisée dans la récupération et le recyclage, qui a passé un accord avec la ville de Lille déjà l'an dernier pour que ces coquilles soient non pas jetées à la poubelle, mais récupérées à la fin de la braderie. Alors, concrètement, on va demander aux restaurateurs de faire un joli tas de coquilles vides sur leur trottoir. Et ces tonnes de coquilles vides, elles vont être acheminées dans une petite usine de recyclage. C'est l'entreprise Ethnici qui se trouve à Roubaix, et que dirige donc Espérance Fenzi pour fabriquer du carrelage, mais aussi de la faïence murale, et puis des tables ou encore des tabourets.
Le process est établi et maintenant validé par quasiment un an de production. Donc on a récupéré les coquilles de moules qu'on a hygiénisées, qu'on a broyées, et qui ensuite est assemblée avec d'autres matières premières secondaires, en l'occurrence du calcaire et un liant, pour en faire soit du carrelage, soit des objets, soit du mobilier.
Quand vous arrivez avec un échantillon, les gens ne sont pas tentés de renifler au cas où?
C'est systématiquement la première question. Justement, l'avantage d'avoir un échantillon, c'est que les gens peuvent sentir la matière. Qui ne sent pas la moule ou la marée?
Vous êtes sûr, Lionel? Quand même, ça sent pas un petit peu?
Non, je vous jure. J'ai vérifié.
Je reconnais bien là votre sens de l'investigation, Lionel.
La coquille de moule, c'est une matière première comme une autre quand elle est traitée correctement. Et c'est vrai que quand Espérance Fenzi est allée présenter son business plan au banquier, genre bonjour, récupérer. Bon, on l'a un peu regardé de travers, mais aujourd'hui, eh bien, il emploie 6 salariés. Il collabore avec un atelier d'insertion. Il a trouvé un véritable équilibre économique. Il a su donc se montrer convaincant. Et puis surtout, eh bien, ses produits, ils ont trouvé leur clientèle.
Et donc, il y a des gens qui achètent des tabouret, du carrelage en coquille de moule.
Voilà, il y a même des restaurateurs qui sont très fiers de posséder des plateaux de table en coquille recyclée. Mais vous savez que sur la boutique internet d'Ethnici, vous pouvez même acheter des objets du quotidien, par exemple un pot à bougie. Et en fait, ce qui séduit les clients...
Il manquait une idée de cadeau pour Eva pour son anniversaire.
C'est tout trouvé.
C'est tout trouvé, vous m'en ramenez un. Oui.
Ce qui séduit, ce qui sera peut-être votre cas d'ailleurs, ce qui séduit les clients, c'est la couleur du produit et bien sûr la démarche écolo.
Il y a aussi la couleur. La couleur se révèle être gris, violet, puisque c'est de la blue mussel. Et puis, quand les gens voient le pot de bougie ou le mobilier, ça doit éveiller chez eux les souvenirs qu'ils ont de la braderie de Lille. Et on se rend compte que cette coquille de moule est pleine d'affect. On y est attaché, ça éveille plein de choses chez les gens. Et du coup, réussir à le faire a été un beau défi et un défi que les gens suivent.
Mais Lionel, ça représente quoi? Combien de tonnes de coquilles de moule va-t-on récupérer, par exemple, cette année?
Alors, environ 4 tonnes, hein, c'est l'estimation.
C'est énorme.
Ouais. Et avec ces 4 tonnes de coquilles, on peut fabriquer 400 mètres carrés de carrelage. Alors, il faut savoir qu'au total, lors de la braderie de Lille, on engloutit 500 tonnes de moule sur 2 jours dans les différents restos de Lille. Vous ajoutez à ça les 30 tonnes de frites. Et l'objectif, c'est donc d'en récupérer encore plus. Et pour ça, il faut que les restaurateurs fassent sur leur trottoir des tas de coquilles les plus propres possibles pour faire en sorte qu'ils ne soient pas trop pollués par les plastiques ou les cartons.
Et on est très écolo, décidément, à la braderie de Lille. L'an prochain, en 2020, tous les gobelets, couverts et assiettes en plastique seront interdits. Ni plus ni moins.
Et j'ai même un autre scoop pour vous, Mathieu. L'an prochain, on va même, tenez-vous bien, expérimenter le recyclage de l'urine des visiteurs et des bras d'eux.
Lionel, qu'est-ce que vous avez bu? Vous allez trop loin, Lionel.
Non, je vous assure que c'est vrai. Réel. C'est inscrit noir sur blanc.
La braderie a déjà commencé pour vous.
Sur le dossier de presse qu'on m'a fourni hier, et puis j'avais déjà eu l'information dans le courant de l'été. En fait, vous savez qu'en plus des moules frites, on boit beaucoup de bière à la braderie, et que la bière, c'est diurétique. Eh bien, à Lille, on réfléchit à un moyen de récupérer, de recycler les urines des visiteurs, évidemment dans les toilettes mobiles, pour en faire de l'engrais qu'on utilisera pour les espaces verts de la ville. Et figurez-vous que ça s'est déjà fait, pas loin d'ici, dans un festival de musique rock en Belgique l'an dernier. Là, l'urine a été recyclée et, paraît-il, j'ai pas goûté, elle a été transformée en eau potable.
Eh bien, à la vôtre, Lionel Gougelot. Merci beaucoup pour ce partage. William Le Gall, vous vouliez ajouter quelque chose?
Et moi, j'ai croisé dans les rues de Nantes cet été des urinoirs, effectivement, donc pour les hommes en pleine rue, qui étaient en même temps des jardinières. Donc, il y avait un réceptacle et des plantes qui poussaient à côté. C'était aussi très circulaire.
C'est ce qu'on appelle la symbiose.
C'est très beau.
Merci beaucoup, Lionel Gougelot. Une bien belle histoire, en tout cas, que celle du recyclage des coquilles de moules.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Oui, vous écoutez l'équipe est sauvage jusqu'à 18h avec Mathieu Noël et sa bande et ses invités. On va retrouver la journaliste Élise Lucet et notre monsieur cinéma Mathieu Charrier. Oui, on va parler cinéma, forcément. Et avec une question cruciale, Disney va-t-il tuer le cinéma?
La passion des journalistes, ce n'est pas que d'enquêter, c'est aussi, à Europe 1 en tout cas, de se castagner la gueule, se jauger, se mesurer, se renifler avant de se maraver. Notre premier compétiteur est ivre de revanche. Mathieu Charrier avait en effet essuyé mardi un léger camouflet dès l'annonce de son thème qui n'avait pas eu l'air d'emballer des masses nos invités Grand Corps Malade et Mehdi Idir.
Je ne sais pas si vous êtes fans tous les deux de Louis de Funès, Mehdi Idir et Grand Corps Malade.
Ouais.
Ça va m'aider alors.
Ça vous a bien aidé, effectivement, Mathieu Charrier. Vous êtes volontairement polémique aujourd'hui. Pour redorer votre blason, Disney va-t-il tuer le cinéma? Mathieu, expliquez-nous, Disney est en train de truster toutes les entrées en salle.
Alors absolument, là vous entendez derrière ma voix la musique de...
Star Wars.
Bien joué, la marche impériale. Pourquoi je passe ça? Déjà parce que ça fait un petit peu peur et puis c'est l'occasion de rappeler que Disney aujourd'hui détient Lucasfilm et donc toute la franchise et tous les films Star Wars. On pourrait aussi diffuser cette musique-là.
Toy Story,
puisque Disney c'est aussi Pixar, c'est-à-dire Toy Story, Ratatouille, vice-versa, Cars, et puis je continue mon jukebox.
Ça, c'est les Avengers. Ils ont les Avengers aussi ?
Bien sûr, ils ont la franchise Marvel tombée dans l'escarcelle. Eh non, dans l'escarcelle de Disney, déjà il y a 10 ans, en 2009. Là, il y a Iron Man, il y a Thor, il y a Spider-Man. Et puis récemment, comme ça leur suffisait pas, ils se sont dit on va racheter la Fox, rien que ça. Ils ont fait un petit chèque d'un peu plus de 70 milliards de dollars, vous imaginez la somme. Et aujourd'hui, ils ont récupéré la franchise Fox. Ça veut dire qu'ils vont sortir les X-Men et puis surtout qu'ils vont sortir les 5 Avatars, vous savez, de James Cameron, qui sont en train d'être produits aujourd'hui. Avatar, c'est encore aujourd'hui le plus grand succès dans l'histoire du cinéma mondial. Et bien, ça veut dire que les 5 prochains... Là aussi, ce sera Disney.
Mais attendez, une fois qu'on fait ce constat, en quoi ça pose problème ?
Déjà, je vais vous dire, il y a un symbole qui est assez fort. On va revenir à notre niveau, à la France. Cet été, grâce notamment au succès du Roi Lion, quand vous mettez Disney et Fox, ils ont franchi le cap des 35 millions d'entrées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à eux seuls, ils font plus que, écoutez bien, Sony, Paramount, Pathé, Gaumont, SND, Mars Film et Studio Canal réunis. Ouf. Ça, c'est juste les entrées de Disney. Ensuite, en 2019, ils ont déjà 5 de leurs films qui ont rapporté plus d'un milliard de dollars de recettes au niveau mondial. C'est colossal. On estime à peu près que cette année, Disney, ils vont faire 10 milliards de dollars de recettes. Quand vous savez par exemple que c'est plus que le PIB du Niger, ça fait réfléchir. Et puis le problème évidemment, c'est que quand vous êtes en position de force, vous êtes fort. Donc Disney, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent parfois, certains exploitants de salles le racontent, dire si tu veux pouvoir passer mon Roi Lion ou quoi,
ils ont le pouvoir de négo,
en échange, il faut me prendre un autre film. Il faut me garantir que tu vas le garder 15 jours ou 3 semaines à l'affiche. Donc voilà, aujourd'hui évidemment, ils ont le pouvoir, c'est normal, ils en abusent.
Et il n'y a rien de positif dans tout ça ?
Il y a un petit peu de positif. Déjà, on sait qu'en France...
Ça discute.
Vous savez...
C'est normal, ils en abusent. Non, c'est pas...
Tous ceux qui ont le pouvoir en abusent, Nicolas. Vous verrez.
Vous verrez que ça vous arrivera, Nicolas.
À part Mathieu Noël.
Ça s'appelle un rapport de force.
Ça s'appelle un rapport de force.
Mathieu.
Et en France, vous savez, il y a juste un truc qui est un petit peu positif. C'est qu'en France, sur chaque ticket vendu, on a beaucoup critiqué notre système, il est très vertueux. Sur chaque ticket vendu, il y a le CNC qui en prend une petite partie et qui le redonne
au cinéma français. Films,
au cinéma français, au cinéma plus d'auteurs. Donc l'avantage, c'est qu'évidemment, quand on achète un ticket pour Le Roi Lion ou pour Star Wars, on récupère un petit peu d'argent et ça permet de financer le reste du cinéma. Le truc, c'est que c'est loin d'être terminé, parce que cette année, Disney, qu'est-ce qu'ils vont sortir à la fin de l'année ? La Reine des Neiges numéro 2, vous voyez arriver le gros carton. Pour être gentil, je ne vous ai pas passé la musique de la Reine des Neiges numéro 1.
Vous êtes gentil. Vous êtes gentil.
Ils vont sortir. Délivré, délivré.
Nicolas Caro. Nicolas
Caro, vous avez
perdu. Et il y a Star Wars numéro 9 qui arrive. La fin de l'immense saga Star Wars.
Mais ça, j'ai hâte.
Encore cartonné. Et puis, on en parlait en antenne avec Élise Lucet. Disney, ils viennent de présenter leur plateforme de SVOD, c'est-à-dire l'équivalent de Netflix. Parce que tous les noms que je vous ai cités là, aujourd'hui, ils étaient distribués sur différentes plateformes. Et Disney, ils se sont dit, c'est quand même dommage qu'on n'en profite pas. Donc, fin d'année 2019 aux États-Unis, la plateforme Disney. 2020 en France, la plateforme Disney. Donc aujourd'hui, vous aurez Netflix et Disney. Ils vont truster tout le cinéma mondial.
Est-ce qu'il n'y aurait pas, Élise Lucet, un petit numéro de cache investigation à faire dans les coulisses de Disney pour voir comment ça se passe ?
En tout cas, dans les coulisses du cinéma, ça, je crois que oui, très franchement.
Vous ne l'avez pas encore fait, ça ?
Non, on ne l'a pas fait, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant.
Mais il y a un gros problème, c'est que les chaînes finance le cinéma.
Oui, mais Élise ne s'arrête pas à ça.
Oh,
pas
Élise,
mais... Vous avez déjà perdu des annonceurs, j'imagine, sur France 2.
Ah,
à
oui.
Cause d'enquête. Oui, on ne les citera pas. Mathieu,
une petite insiste. Allez-y. Quand on a la chance d'avoir une présidente de France Télévisions qui vous dit droit dans les yeux, et me l'a dit au moins 4 fois, pas de souci, continue ton enquête, et si on perd l'annonceur, c'est pas grave, on en retrouvera un autre. Chapeau bas, parce que c'est ça la liberté éditoriale, ça se compte comme ça. C'est on perd un budget, pas grave, parce qu'on gagne dans ce qu'est la réputation de France Télévisions sur l'investigation. Et à chaque fois, elle a fait ce choix. Donc moi, je dis chapeau et merci Madame Ernotte.
Eh bien, effectivement, chapeau Madame Ernotte.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.